J'aime beaucoup les 60.
Portrait sensible, Pierre-Yves Jouyot.
Toujours un truc en tête, une nouvelle idée à réparatrice de platine, forgeuse de glaive, spécialiste de James Dean ou bien marchand de rêve, ils ont tous une bonne raison de laisser se dessiner sur les ondes leur portrait sensible. Bienvenue sur Cob FM. Je reçois aujourd'hui Jérôme Simoni, notre 48e invité. Jérôme, bonjour.
Bonjour.
Jérôme, tu es venu nous parler de quoi ?
De 45 tours.
De 45 tours. On se met tout de suite dans l'ambiance, Willy, je t'en prie.
Oui, Jérôme, c'est moi, donc je n'ai pas changé.
Alors Jérôme, ça c'est un 45 tours, mais je me suis trompé, c'est pas ça que je voulais te faire écouter, excuse-moi. Willy, je t'en prie, mets-nous le deuxième.
Kiss me as you love me, prends un coca et assieds-toi.
Alors Jérôme, ça te parle ce 45 tours-là ?
Alors ça me parle à mort,
ouais.
T'as mis dans le mille total, c'est incroyable. Surtout le premier qui n'était pas le bon, c'est-à-dire que...
Bah c'était toi quand même.
Mais c'était moi.
Oui Jérôme, c'est moi.
C'est un des premiers 45 tours que j'ai écouté, entendu et que j'ai mis moi-même tout seul sur la platine quand j'avais 4 ou 5 ans. Alors je suppose que... ce disque, mes parents l'avaient acheté parce que je m'appelais Jérôme, je m'appelle certainement Jérôme, parce que le prénom okay. A été poussé comme ça. Et moi, quand j'étais petit, moi je suis un passionné de musique. Hein.
Ouais.
Là, on parle principalement de 45 tours, puisque par ailleurs, je fais partie d'un duo de DJ où nous ne jouons que du disque vinyle et du 45 tours.
Et que du 45 tours.
Et uniquement du 45 tours. Et bah pour moi, vraiment, le 45 tours, et notamment Oui Jérôme, c'est moi, ça a vraiment fait partie, ça a été ma porte d'entrée dans la musique via le 45 tours, qui est le format, on avait des petits disques.
Ouais.
Je me souviens que j'écoutais énormément ça. La chanson, une chanson de Titi et Gros Minet, et Pierre Vassiliou.
Okay. Et qui c'est celui-là ?
Qui c'est celui-là ?
Alors, Kiss Me, c'est le premier succès de ces Jérômes. Est-ce que tu connais la petite histoire par rapport à ce disque-là et à l'harmonica ?
Pas du tout.
Alors figure-toi que ces Jérômes étaient dans la même maison de disques que Les Mots Bleus.
Christophe.
Voilà.
Christophe Jean-Michel Jarre.
Christophe est passé dans les studios au moment où ces Jérômes enregistraient et il lui a dit « Écoute, c'est vachement bien ton truc, si tu veux je te fais un harmonica sur l'intro. » Et c'est Christophe qui est à l'harmonica.
Non.
Ah bah si je te l'apprends.
Ah bah si tu me l'apprends, puis alors c'est pareil, c'est rigolo parce que je suis un gros fan de Christophe.
L'auteur de ce titre-là, c'est Jean Albertini. Le label, c'est Jérôme, à ton avis ?
Vogue.
Disque AZ.
Ah.
Voilà, donc ils étaient tous les deux dans la maison Disque AZ. Alors voilà, on a démarré avec ce Jérôme pour justement que tu nous parles de cette passion que tu as pour le 45 tours. Parce que comme tu nous l'as déjà dit, tu as un duo de DJ qui s'appelle Vendange Tardive. Et la particularité de ce duo, c'est pour ça que je t'ai invité, c'est que vous ne passez que des 45 tours. Alors pourquoi cette idée-là de passer que des 45 ?
Les choses, elles arrivent toujours par hasard. Yann, avec qui on fait ce duo, est un très bon copain à moi, qui aime beaucoup la musique aussi, évidemment, et qui a plein de vinyles. Moi, j'ai plein de vinyles aussi. Et quand je passais chez lui, régulièrement, il y avait des 45 tours. Et régulièrement, je foutais le nez dans ces 45 tours. Et je lui disais, mais c'est marrant, moi j'en ai aussi et tout, j'en ai quelques-uns. C'était vraiment un moment où le vinyle commençait à revenir à la mode, mais où le 45 tours, tout le monde s'en foutait, réellement. Et un soir, nos femmes étaient parties entre copines au restaurant, etc. Lui devait garder sa fille, il me dit, ben viens avec tes 45 tours. Il avait table de mixage, platine, casque et tout. Il dit, et on va s'amuser, quoi.
Ok.
On va s'amuser à passer des disques. Bon, très bien. Je me pointe avec ma boîte de chaussures de 45 tours. Une bouteille de vin blanc de vendange tardive pour boire un coup en même temps.
C'est vrai que les 47 tours, ils rentrent parfaitement dans les boîtes à chaussures.
La boîte à chaussures, c'est super pratique pour ça, ouais.
Donc tu arrives avec ta bouteille de vendange tardive.
Et on commence à jouer.
Ça existe vraiment, vendange tardive?
Ah, bien sûr.
Ah, d'accord.
Du Gewürztraminer, vin d'Alsace.
Ah, c'est pour
et
ça.
Et donc, on joue et ça match, et ça match. C'était rigolo. Il y avait des moments. Lui, pareil, il avait une boîte à chaussures. Et des 45 tours, pas forcément des bons trucs, mais pas des trucs glorieux spécialement, tu vois, pas des morceaux incroyables et
ouais,
tout
ouais.
ça. Et ça a matché super bien. Et à la fin, il me dit, mais on pourrait peut-être faire quelque chose, quoi. Ça serait marrant. On dit, oui, on peut essayer. De toute façon, on verra bien. Ça marche pas, on s'en fout. On fait le truc, quoi. Il dit, ouais, mais si on fait ça, faut trouver un nom. Je dis, vendange tardive. Mais il me dit, mais pourquoi? Alors, vendange tardive. Les vins d'Alsace, la vendange tardive, c'est ce qu'on appelle la sélection de grains nobles. C'est-à-dire que tu laisses tes grappes de raisin sur le pied le plus longtemps possible, tu récoltes
voilà,
au dernier moment.
Avec une petite moisissure.
Voilà. Et la moitié de tes grains, ils sont foutus.
Ouais.
Tu les fous à la poubelle. Et par contre.
Le reste est hyper sucré.
Voilà. C'est ce qu'on appelle la sélection de grains nobles. Et en fait, nous, l'idée aussi, c'est de se dire, nous, c'est ce qu'on fait. Quand tu vas dans un vide-grenier, dans une brocante, dans une convention de disques, tu retournes du plastique et du plastique et du plastique. Et en fait, si tu veux, quand tu as... quand tu as tripoté 100 disques, quand t'en sors un, c'est beau, c'est bien, quoi.
C'est à peu près ça. C'est un grain noble.
La sélection de grains nobles, vendange tardive. En fait, tu vois, tout s'est aligné comme ça, mais en une soirée, quoi. Je suis arrivé avec 3 disques, enfin, ma bouteille de vin, sans arrière-pensée, sans rien du tout, quoi. Et on est reparti, on avait un duo de DJ, quoi.
Voilà. Une bascule dans ta vie. Premier cadeau pour toi, Jérôme. Encore et toujours un 45 tours, interprété par un des piliers de la variété française. Cette fois, il ne s'agit pas de ces Jérôme, chanteur qui roulait plutôt pour l'équipe Podium, équipe pour Midinette jeune et jolie, aux couleurs de Clo-Clo, Dassin et l'inénarrable Frédéric François. Non, là, on est plutôt dans l'équipe rock'n'roll du peloton, emmené par le taulier Johnny, dans sa période « J'ai oublié de vivre ». Alors attention au suspense, ce n'est pas lui qui va chanter. Willy, craquement, s'il te plaît.
Sa cigarette, puis repousse le cendrier, se dirige vers les toilettes, la démarche mal assurée. Il revient régler ses bières, le sandwich et son café. Il ne rentre pas ce soir. Le grand chef du personnel l'a convoqué. C'est faire notre société. Vous êtes dépassés et du fait vous êtes remerciés. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir. Oh, oh, oh. Il s'en va de bar en bar. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir. Sa femme et son banquier, la sinistre vérité. Être chômeur à son âge, c'est pire qu'un mari trompé. Il ne rentre pas ce soir. Fini le golf et le bridge, les vacances à Saint-Tropez, l'éducation des enfants dans la grande école privée. Il pleure sur lui, se prend pour travailleur émigré. Il se sent dépassé et du fait il est remercié. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir. Oh, 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 oh. Il s'en va de part en part. Il n'a plus d'espoir, plus d'espoir. Il ne rentre pas ce soir.
Fini fini le golf et le bridge, les vacances à Saint-Tropez, l'éducation des enfants
dans la grande école privée.
Eddie Mitchell, Il ne rentre pas ce soir, tu connais évidemment. Ça, c'est un titre qui date de 1978. Eddie Mitchell est allé l'enregistrer à Nashville. Il est extrait de son album Après minuit et ça a été composé par Pierre Papadiamandis.
Pierre Papadiamandis, je crois que c'est quasiment lui qui compose quasiment tout pour Eddie Mitchell.
Ok. Et là, on a un titre qui sort en 78, donc 5 ans après le premier choc pétrolier et le chômage commence à se développer en France. C'est nouveau. Jusqu'à présent, c'était le plein emploi. Eddie Mitchell sort ce petit bijou-là qu'on retrouve dans pratiquement tous ses concerts puisque c'est devenu un classique d'Eddie. On est toujours avec Jérôme Simoni, c'est son portrait sensible. Aujourd'hui, on parle de 45 tours. Jérôme, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Tu vis où?
Eh ben, écoute, moi j'habite à Saint-Brieuc, j'ai 53 ans.
Ouais.
Dans la vraie vie...
Ton métier, c'est pas vendeur de 45 tours?
Non.
C'est quoi ton
vrai métier? Mon vrai travail, c'est plombier chauffagiste.
Ok. Et ton nom, Simoni? T'es d'origine italienne.
Voilà, ouais.
Alors moi, quand j'ai entendu Simoni, j'ai pensé tout de suite à ça. Je vais te faire écouter un petit son.
Qui, Madame Paquet? Mais c'est normal, j'étais avec Monsieur Simoni.
Ah bon, c'est normal. C'est normal que tu te renfermes avec Monsieur Simoni quand ta mère est au bord du gaz.
Maman.
En plus, il a rien du tout, celui-là, c'est un comédien.
Il a rien du tout. Tu veux voir ses radios?
Il a rien du tout. Demande à Madame Paquet. Seulement lui, forcément, il te paye, alors tu le reçois avec des sourires. Mais si maintenant faut payer pour te voir, dis-le, je savais pas. Combien je te dois?
Arrête!
Ça te dit quelque chose, ça?
Yves Robert, un éléphant, ça trompe énormément.
Ah non, c'est pas celui-là, c'est,
ah,
le,
c'est l'autre,
c'est le
nous irons tous au paradis.
C'est nous irons tous au paradis. Guy Bedos,
Marthe Villalonga.
Voilà, ils sont en train de jouer au tennis et voilà la mère de Guy Bedos qui déboule, Marthe Villalonga, et qui lui fait une scène de mère juive en plein milieu de sa partie de tennis avec ses potes. Tes origines sont italiennes.
Voilà, ouais. Moi, j'habite Saint-Brieuc depuis que je suis tout petit, mais toute ma famille vient de Lorraine, en fait. Mon grand-père a immigré quand il était tout petit, avec ses parents, ses sœurs. Après la guerre, ils sont tous repartis, mais moi, mon grand-père, il avait rencontré ma grand-mère. Donc, lui, il est resté.
Ouais.
Et puis après, au fil de la vie, tout ça, on est arrivé par ici, quand moi, j'étais vraiment tout petit. Tu vois, quand je parlais de Saint-Jérôme tout à l'heure, c'est à Saint-Brieuc, moi, mes souvenirs avec Saint-Jérôme.
Okay.
Mais la musique a toujours été présente parce que mon grand-père, qu'on allait voir tous les ans en vacances et tout ça, était fou de musique. Alors lui, c'était accordéon musette. mais quand il était jeune, il faisait de la musique dans les bals, etc. Moi, chez moi, la musique a toujours été présente. Toujours. J'ai fait de la musique au conservatoire quand j'étais... La musique a toujours été chez nous, quoi. Il y a toujours de la musique.
Est-ce que tu te souviens comment on s'est rencontrés et où?
Eh ben, on s'est rencontrés, c'était à la soirée de clôture de la cantine éphémère au Légué il y a quelques années, où c'était nos tout débuts.
Ah, donc, c'est pas si vieux que ça,
c'est
alors.
Ça fait 7-8 ans quand même, 8-9 ans, ouais, 7-8 ans, quelque chose comme ça. Et là, c'était vraiment nos premières dates pro.
Et j'étais venu te voir pour discuter avec toi, peut-être.
Voilà, et t'étais venu nous voir, dire ouais, « c'est super ce que vous faites, etc. »
Alors... Ce que j'aimerais maintenant, Jérôme, que tu nous racontes, ou que tu nous expliques plutôt, c'est que quand tu es derrière tes platines avec ton pote, que tu programmes des 45 tours, qu'est-ce que c'est ton kiff? Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer dans ce duo que tu as monté? Est-ce que c'est la préparation de la soirée? Est-ce que c'est pendant la soirée? Est-ce que c'est la recherche de 45 tours? Raconte-moi.
Alors, c'est pas la préparation, parce que la préparation, pour nous, ça consiste à mettre le matériel dans le camion, à le redescendre et à le brancher, parce qu'on répète jamais. On se prépare jamais. C'est-à-dire que nous, notre façon de fonctionner, on vient avec une énorme quantité de disques. On doit venir avec autour de 1000 disques. À nous deux, chacun les nôtres.
Ah, ok.
Non, le super kiff, c'est à des moments, quand tu fais des choses qui sont osées dans l'enchaînement, à faire des articulations, 2, 3, 4, 5 morceaux, où tu pars d'un côté dans tous les sens, ça semblerait incohérent, mais en réalité, il y a une cohérence que tu ne maîtrises pas toujours. Hein.
Ça se fait au feeling, Jérôme. Tu ne sais jamais à l'avance ce que tu vas programmer.
Non, parce qu'il y a les gens. Tu peux écrire le meilleur truc du monde. chez toi, tu vois, on peut travailler, dire ça, 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 ça. Mais si en face, les gens, ils ne le reçoivent pas, bah, t'es foutu. C'est toi un moment...
Tu dois être à l'écoute du public.
Voilà, je joue pour vous. Il n'y a pas de toi, toi, toi et toi, finalement, dans le public. Il y a une espèce de masse, comme une espèce de vague. Mais l'idée, c'est de faire onduler toute la vague. Et pour ça, le 45 tours, c'est vachement bien. Parce que moi, je pars du principe, un 45 tours, un tube. Alors un tube à ta mesure, c'est toi qui décides de ce qui est tube, de ce qui n'est pas tube. Hein. En tout cas, un 45 tours blâme, ça met une énergie qui est intéressante. Parce qu'un 45 tours, le format, c'est entre 3 minutes, 2 minutes 50 et 5 minutes. Ça fait que dans le ping-pong auquel on joue, très rapidement, inconsciemment...
Parce que c'est chacun votre tour.
C'est toujours chacun notre tour.
Ah d'accord. Voilà. Et est-ce que tu as en tête une transition, c'est-à-dire... Un jour où tu as eu l'idée de placer un 45 tours après celui de ton partenaire et ça a vraiment matché et ça t'est resté en tête.
C'est ça dont je parlais quand je disais c'est des articulations à un moment.
Alors, vas-y,
une fois j'ai fait un truc, c'était un moment où j'étais tout seul, que Yann était parti fumer une cigarette et discuter un peu avec sa femme. On avait fait genre Marilyn Manson, Alicia Keys, Johnny Hallyday. Je suis pas complètement neuneu. Si je pense à tel truc à tel moment, ça me paraît, même à moi, ça me paraît bizarre, mais ça sort pas d'un chapeau, quoi. Tu vois, c'est pas, je les prends pas au pif pour les mettre. Et en fait, bien souvent, c'est des fois quand ils repensent, que la cohérence, tu te rends compte qu'en fait, t'avais un fil. Une fois, ça nous est arrivé, on s'est rendu compte le lendemain que, on a, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, où ça avait été un truc super dingue, on avait joué, Berlin. Ambiance Berlin, tu vois, ça peut être en mettant un David Bowie ou Iggy Pop de la période des 80 quand il était à Berlin, ça peut être passer un morceau de punk pop allemand des années 90, ça peut être en même temps passer Cannes, un truc de krautrock des années 60, mais qui rappelle cet esprit, et tu vois, et des fois en fait la cohérence, moi souvent je comprends mieux la cohérence de ce qu'on a fait après qu'en le faisant. Parce qu'en le faisant, en plus, t'es dans un truc, t'es dans une énergie, t'écoutes ce que fait ton collègue, faut penser à trouver un truc, après faut aller chercher, tu poses, tu cales, oh, et puis des fois, 30 secondes avant, tu dis, oh putain, je pense à un autre truc, bah, t'en prends un autre, là, 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 t'es tout à l'arrache. Tu vois, quand tu joues, tu fais beaucoup de choses en même temps.
Pause musique, on entre dans ta programmation, Jérôme, avec un titre des petits gars de Liverpool, comme disait Gainsbourg, extrait de l'album Blanc. C'est pas la première fois que je diffuse un extrait de ce coffre de diamants. On a déjà pu écouter dans Portrait Sensible Something du grand George ou Julia de Lennon, mais là, c'est un titre de McCartney. On écoute et tu nous dis tout. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Do you? Helter Skelter.
I got blisters on my fingers.
Paul McCartney et les Beatles, extrait de l'album blanc. Je t'écoute, Jérôme, pourquoi ce choix ?
Eh ben, Helter Skelter, c'est quand même le premier morceau de punk qui sort, quoi. Enfin, moi, c'est la première
fois. Selon toi ?
Selon moi. Mais en tout cas, ce morceau-là, en plus venant des Beatles. On s'y attend d'autant moins. Tu vois, t'as plein de gens, tu fais entendre ça aux gens, tu dis, ouais, c'est vachement bien. Tu dis, ah ouais, ça, alors, tu dis, ouais, ça date de 70. Ah ouais.
Tu connais.
Et c'est les Beatles. Ah ouais.
Tu sais pourquoi il l'a écrit ?
Alors, je ne sais pas.
Alors, justement, bah, je suis tombé là-dessus. Il se trouve que McCartney avait lu l'interview d'un des membres des Who qui parlait de leur titre I Can See for Miles en disant que ce titre-là, c'était du lourd, du brutal. Et que c'était le morceau le plus dur qu'ils aient jamais enregistré. McCartney écoute le morceau, déçu, il le trouve conventionnel. Il compose alors Helter Skelter, comme le morceau qu'il aurait aimé entendre après avoir lu l'interview des Who. Voilà l'explication.
D'accord.
Ouais. Et effectivement, ce titre-là est considéré comme étant précurseur du mouvement metal. Punk.
Metal, punk, garage, enfin après, quand je dis punk, c'est au sens large. Moi, dans la musique, je classifie toujours au sens large. C'est-à-dire que quand tu dis du rock, ben ça va au sens large, le rock, c'est de Johnny Hallyday à Marilyn Manson. Et entre les deux, t'as un chant. quand tu dis du jazz ou du funk ou de la musique électronique, moi j'aime bien que la chapelle elle soit large parce que comme ça,
un champ à cultiver.
Tout est dans tout.
Un champ à cultiver.
Exactement.
Et tu sais ce que c'est un Helter Skelter ?
Alors, c'est le Helter Skelter, c'est le bordel, c'est le chaos.
C'est aussi un manège qu'il y avait dans les fêtes foraines anglaises.
D'accord.
Une espèce d'escalier hélicoïdal. Voilà ce que j'ai appris en allant consulter l'article Wikipédia sur ce titre des Beatles.
C'est un morceau complètement dingue. Hein.
Ouais.
C'est le morceau qu'a fait vriller Charles Manson. De la secte, machin chose, Sharon Tate et tout. Il était en boucle sur ce morceau. Et Manson, Charles, son délire, c'était de provoquer le chaos, une révolution, un machin, qu'il appelait, lui, le Helter Skelter, justement. Et tout son mantra mental, si on peut dire, dans sa folie, tournait autour de ce morceau de musique.
Ok, alors, puisqu'on parle de musique, et puisqu'on parle de 45 tours, qui est devenu une de tes passions, suite à la soirée que tu nous as racontée en début d'émission, comment tu expliques qu'aujourd'hui, Jérôme Simoni, avec son pote Yann, il ait créé ce duo de mixeurs qui passe des 45 tours ?
La musique ?
Ouais.
Je crois que la musique, elle a toujours été là, quoi.
Ouais.
Moi, quand j'étais jeune, que je bossais dans les bars, que j'étais étudiant à Rennes, on allait dans les bistrots voir de la musique, on avait des copains qui faisaient de la musique. Moi, j'ai même essayé d'en faire.
Mais par contre, t'es pas devenu musicien.
Non.
T'es pas doué pour ça.
Moi, quand j'étais petit, j'ai eu le droit à l'école de musique, le solfège, machin. J'ai joué du cor d'harmonie.
Ah, quand même.
Ah oui. Mais c'était l'horreur parce que c'était l'école bis, c'était les vieux messieurs en nu papillon, tu vois. On avait des contrôles, des dictées de notes et tout. Mmh. Et en fait, j'ai réessayé, moi, après, de me mettre à la basse, notamment, qui est un instrument que j'adore. Pour apprendre de la musique, pour apprendre à jouer, il faut de la discipline. Mais je crois que j'ai fait un blocage sur la discipline du conservatoire, qui était vraiment un truc pas drôle à l'époque, quoi.
Alors qu'aujourd'hui, les jeunes, je vois mon fils, il est bon guitariste et bon joueur de piano. Il a quasiment appris tout seul, avec tous les moyens qui s'offrent aux jeunes pour pouvoir s'initier eux-mêmes à la musique. On peut avoir une approche... Oui, beaucoup plus cool qu'avec monsieur en EPAP qui t'a drivé sur le corps.
Et puis aujourd'hui, si tu veux faire de la musique électronique, un ordinateur, un petit sampleur, un petit peu de matériel, t'es tout seul dans ta chambre, une bonne carte son, et encore une bonne. Pour commencer, une mauvaise, c'est très bien. Hein. Non mais, tu sais...
Ça peut faire un son helter-skelter.
Par exemple, et puis surtout, l'idée c'est de commencer petit. Nous, on a commencé avec peu de disques. On a commencé, on faisait les vide-greniers pour trouver des disques. On les fait toujours.
Et maintenant, vous en revendez.
Ça nous arrive de temps en temps de déstocker un peu, mais vraiment pas souvent. Hein. Vraiment pas souvent. Quand
Est-ce
même.
Que, Jérôme, il y a une soirée où il s'est passé quelque chose de ouf, qui t'est resté en tête, un moment fort des vendanges tardives? Je t'écoute.
Alors,
le premier qui te vient en tête.
Alors moi, pour moi, le plus beau moment qu'on ait eu, pareil, c'était tout au début, où Julien Tinet, notre camarade... Et confrère nous a demandé si on voulait mixer au Bar Vie pour l'after de Hard Rock. Et alors évidemment qu'on a dit oui, forcément. Et on jouait avant, à l'époque au Yaskif, on a traversé toute la ville avec avec notre chariot à roulettes, nos disques et tout. On est arrivé, tout essoufflé, on a posé notre truc. Et là, et puis on était fous comme des lapins. C'était la première fois qu'on jouait dans un truc officiel, un gros truc.
Fous comme des lapins, mais pas sous comme des Polonais.
Ah non. Un peu joyeux quand même, un peu joyeux. Hein. Et où ça s'est passé, on a pété le score, quoi. Tout le monde était à fond. Je me souviens, il y a le groupe La Femme qui est arrivé. Moi, ma fille, elle m'a dit, putain, ils sont arrivés, ils sont rentrés. Il y a une fille qui a tourné la tête, elle a dit, oh, trop bien la musique. Et effectivement, les deux danseuses, chanteuses de La Femme, elles ont été au premier rang pendant deux plombes, elles ont dansé les bras en l'air comme ça, comme des dingues. Je me souviens, à la fin, on a fini, et le gars qui tenait le truc, il me dit, mais vous pouvez mettre encore un morceau?
Ouais.
Ce sera un de mes plus beaux souvenirs. Il y a plein de fois où on a joué, que c'était la folie et tout ça. Moi, je crois que pour moi, ça a été la première fois où j'ai pris un peu d'assurance, où tu te dis un moment, ouais, là, quand même, on est bon, quoi.
Alors... Enfin, si tout le public commence à être bien chaud, ça peut relativiser son comportement.
Oui, oui, mais pour qu'il devienne tout foufou comme c'était, il faut quand même que ça lui plaise.
Ouais. Voilà.
Parce que justement,
vous auriez pu vous faire jeter aussi.
de la même manière, ouais, de la même manière, justement, un public qui commence un peu plus qu'éméché, on va dire, peut devenir horrible
tout
si tu
fait.
Leur plais pas du tout, quoi.
Minus 10, 8, 7,
6.
Mesdames et messieurs, il est temps de prendre place à bord du Chronoscaf de Cob FM, embarquement immédiat pour l'année 1976. Jérôme a 8 ans. Il est avec papa Simoni dans la 504 Break, direction le lac de Guerlédan pour une partie de pêche au brochet. À la 504 de papa, avec l'autocollant roulé avec Europe 1 collé sur la lunette arrière, pas question d'écouter une autre station. Ça non, pas question. Jérôme, lui, se moque bien de ce que peuvent raconter les animateurs. Lui, son truc, ce sont les tubes. Il a même mis au point un petit jeu intérieur consistant à deviner le prochain qui va passer à l'antenne. Là, il vient de miser sur Afanana d'Afrique Simone. Mais non, perdu. C'est une jeune femme répondant au doux prénom de Jeannette qui envahit l'habitacle de la Peugeot et papa Simoni pousse le volume.
Desperté pensando en ti.
Sensible, Pierre-Yves Jouyot.
Por qué te vas, Jeannette, chanson espagnole composée en 1974. Tu nous racontes, Jérôme, comment tu as découvert ce titre et pourquoi tu nous l'as proposé.
Ce titre-là, c'est ma découverte de la pop musique. Je me souviens, j'étais à l'école à la Brèche aux Cornes en maternelle et la maîtresse nous faisait danser, elle passait ça.
Ah ouais, vous dansiez là-dessus.
Ouais, ouais, ouais.
Excellent.
Ça, c'était un énorme tube, quoi.
Et alors, la 504 de papa ?
Alors, la 504 de papy, figure-toi.
De papy ?
Parce que mon grand-père italien, qui était chauffeur de taxi, qui était artisan taxi, quand on est en vacances là-bas, moi, j'étais à l'arrière et tout. J'allais faire les courses avec mon grand-père.
Excellent.
Et mon grand-père adorait la musique.
Ok.
Donc, il avait des cassettes et des cassettes. Alors, lui, c'était chanson napolitaine. Musette, Riquita, Jolie Fleur de Java, mon petit chapeau tyrolien, tout ça. Mais c'est des super souvenirs d'être dans la 504 avec mon papy et d'écouter la musique.
Et
la
bande
son de ta vie.
Et Afrique Simone.
Ah bah alors Afrique Simone, moi je l'ai vu, figure-toi, au podium européen en 1976,
et moi,
place de la Liberté
aussi.
À Saint-Brieuc.
On y était tous les deux sans se connaître.
Ah bon, c'est pas vu.
On s'est pas vu à l'époque. Mais on a vu Afrique Simone.
Absolument.
Avec Eddie Mitchell et Carlos. C'est un grand souvenir puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de festival, il y avait très très peu de concerts. Europe 1 déboulait un peu comme Euro Disney à Saint-Brieuc sur la place de la Liberté. Et on voyait des artistes en live qu'on entendait à la radio ou qu'on voyait à la télé.
Et précisément, les boucles se bouclent. C'était une culture finalement très 45 tours.
Exactement.
Parce que Carlos y venait, il chantait je sais pas quoi, il a chanté genre deux chansons.
Le bougalo du loup-garou.
Voilà.
Le monde entier, bientôt il ira chez ses petits camarades, en grimpant comme un fou en haut des hit-parades. Et la grosse bébête.
Il a chanté deux tubes de 45 tours.
Voilà.
Pareil, Eddie Mitchell a dû chanter 2-3 titres et c'était vraiment...
Alors, Eddie Mitchell,
en fait, c'était le jukebox vivant, finalement.
Ouais, c'est ça.
Ni
c'était
plus,
l'époque
ni moins,
pas de boogie-woogie.
Je ne sais plus en quelle année c'était, mais enfin, c'était dans les années 70.
Ça devait être 77, 78,
voilà,
un peu comme
ça. Voilà, dans ces eaux-là, quoi.
Mm-hmm.
Et c'était culture 45 tours. C'est ça aussi qui est marrant, je trouve, dans le 45 tours, c'est que c'est quelque chose de très éclectique. Tu parles d'Afrique Simone, moi, ça m'est arrivé... quelques fois en DJ set de jouer Afrique Simone, tu vois, parce qu'en fait c'est le 45 tours, c'est la boom aussi quand on était ado.
Ouais, mais alors les jeunes générations, ils connaissent pas du tout ça.
Non.
Alors, comment ils réagissent?
Après c'est pas très grave parce qu'ils s'en foutent, parce qu'en même temps c'est pas nécessaire. Si tu veux, tu viens nous voir, t'as pas besoin de savoir tout ça, comme quand tu vas voir finalement n'importe quel DJ. C'est-à-dire que on saupoudre, il faut saupoudrer régulièrement des trucs que les gens connaissent. Moi, de la musique, je t'en passais de la bonne et de la mauvaise, quoi. De toute façon, je vais forcément passer de la bonne et de la mauvaise, parce qu'il y a des trucs que tu vas trouver, tu vas dire, oh, ça c'est trop génial, puis d'autres trucs, tu vas dire, ça j'aime pas du tout. Ce qui est mauvais pour toi, il est mauvais pour toi.
On arrive à tes coups de cœur. Je t'ai demandé de nous choisir un film et une œuvre littéraire. On commence par le film. Willy te met tout de suite la bande son. Voilà, on écoute ça. Petit craquement de rigueur. Et maintenant, tu peux nous dire de quel film il s'agit.
Moi, j'ai choisi Las Vegas Parano.
Alors, raconte-nous.
De Terry Gilliam. Mmh. Surtout parce que c'est tiré du livre de Hunter S. Thompson, que j'ai lu par ailleurs, dont j'ai lu aussi d'autres livres. Bah, c'est une écriture rock'n'roll, quoi.
C'est, ah, donc c'est le bouquin qui t'a inspiré au départ.
Le bouquin, le film. Mmh. J'ai d'abord vu le film qui m'a fait complètement délirer.
Ouais.
J'aime beaucoup Terry Gilliam, les films qu'il a fait.
Raconte-nous le pitch alors, s'il te plaît.
Ah ben, le pitch, c'est un journaliste complètement défoncé sous toutes les drogues possibles qui part avec son copain pseudo-avocat qui part à Las Vegas pour couvrir une course de moto dans le désert où ils iront jamais vraiment, puis qui en fait passe un week-end de défonce aux frais de la princesse à Las Vegas à faire tout et n'importe quoi.
Alors c'est avec Johnny Depp et Benicio del Toro
et sa fille de Terry Gilliam.
Voilà, sorti en 1998 que je n'ai pas vu. On va écouter un extrait pour se mettre dans l'ambiance.
On avait deux sacs bourrés d'herbe, 75 plaquettes de mescaline, 5 feuilles complètes d'acide en buvard, une salière à moitié pleine de cocaïne, une galaxie multicolore de remontants, sédatifs, hilarants, larmoyants, criants. En plus, une bouteille de tequila, une bouteille de rhum, une caisse de bière, 1 demi-litre d'éther pur et 2 douzaines de poppers. Donc on a eu besoin de tout ça pour le voyage, et quand on démarre un plan drogue, la tendance, c'est de repousser toute limite. Mon seul souci dans tout ça, c'était l'éther. Je ne connais rien au monde de plus pitoyable et irresponsable et dépravé qu'un hétéromane en vadrouille. Et je savais qu'on y viendrait avant longtemps.
Tiens, le jeune mec, on va le prendre.
Attends, on peut pas s'arrêter ici. C'est le pays des chauves-souris.
Oh super, j'étais jamais monté en décapotable.
Alors voilà, ils sont tous les deux sur la route et ils vont s'arrêter pour prendre un jeune au stop qui risque un peu de le regretter parce que
okay, ouais.
Il va lui arriver de drôles de choses. Donc, évidemment, on ne vous incite pas à consommer tout ce qui a été cité dans l'extrait. Quel est l'intérêt du film ? C'est de voir comment ils vont résister à toutes les substances qu'ils vont ingérer ?
Non,
en
fait, c'est la tranche de vie, quoi. C'est-à-dire que Terry Thompson, il a inventé ce qu'on appelle le journalisme gonzo en immersion, quoi. Ils vont en immersion toujours dans des endroits super chelous. Et ce que j'aime beaucoup dans le livre, dans le film, mais tu sais, c'est comme la violence dans les films de Tarantino. Ça part tellement loin dans le délire de la drogue que ça en devient drôle.
Ouais.
Comme la violence chez Tarantino, elle est tellement incroyable que ça en devient une espèce de chorégraphie, tu vois.
C'est de l'ultra second degré.
C'est ça. Et du coup, ça en devient drôle. Et surtout, c'est révélateur des années 70. Bah, sexe, drogue et rock'n'roll, quoi. Et aussi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est là qu'on voit que le rock, c'est une culture. C'est un film rock, le livre est rock. Le rock, c'est un art de vivre. C'est pas juste un son.
Donc c'est un
comme
film...
la culture hip-hop, c'est un art de vivre et c'est pas juste un son.
C'est un film rock and roll.
Voilà.
On passe à l'extrait littéraire. Alors en fait, tu es le premier à faire ça, mais je t'ai demandé un extrait littéraire et toi tu m'as envoyé un lien YouTube. Donc je suis allé télécharger le son. J'en ai pris un extrait. On va écouter le début. Et tu vas nous dire de quoi il s'agit, jusqu'à ce que ça parle. Vas-y.
Alors, il s'agit d'un enregistrement de Jacques Kerouac qui lit un de ses textes. Jacques Kerouac est un fou de jazz, fou de jazz. Et il parle de Charlie Parker. C'est peu de temps après la mort de Charlie Parker. Et ce qui est magnifique là-dedans, tu m'avais demandé un extrait, mais je me suis dit, moi, je ne vais pas le lire. Je ne suis pas super fort à lire haute voix.
On va l'écouter.
Ça. Écoutons-le.
Charlie Parker looked like Buddha. Charlie Parker, who recently died laughing at a juggler on TV, after weeks of strain and sickness, was called a perfect musician. And his expression on his face was as calm, beautiful, and profound as the image of the Buddha represented in the East. The lidded eyes, the expression that says, all is well.
Alors, on vient d'écouter Jack Kerouac parlant de Charlie Parker, parlant de sa mort. Moi, j'ai capté à peu près ce qu'il disait. Il parle des expressions de son visage. Pourquoi tu as fait ce choix-là? C'est pour Charlie Parker ou c'est pour Jack Kerouac?
Plus pour Jack Kerouac, dont j'ai lu beaucoup de livres. J'aime beaucoup cet auteur-là. Ouais. Et ce qui est très beau, ça, c'est un extrait que j'avais vu sur Arte il y a très longtemps, sur Arte, sur un truc sur Jack Kerouac.
Ouais.
Ce qui est très beau là-dedans, je trouve... Tu vois, t'entends le petit piano derrière, les petites arpèges de piano comme ça, puis lui pose sa voix et il dit en gros, quand Charlie Parker souffle dans son saxo, il ressemble à Bouddha et sa musique nous dit tout va bien. Et c'est super beau, ça montre aussi le poète qui était Jack Kerouac, pas que l'écrivain, c'était un grand poète. Et vraiment ce...
Et toi qui es ouvert à la musique et qui écoutais Rikita, jolie fleur de Java avec ton papy dans la 504, finalement, même si t'es un type essentiellement rock'n'roll, tu ne dédaignes pas écouter du jazz.
Ah bah non, d'abord parce qu'il y a du jazz rock.
Ouais.
Non. En fait, je me rends compte de ça. C'est-à-dire que moi, tout, c'est pas quelque chose que je fais pas exprès. Hein. Quand j'écoute du jazz, finalement, pas que, mais j'aime bien les trucs quand même qui sont plutôt un peu rock. J'aime beaucoup le funk. Mais je préfère, par exemple, j'aime beaucoup James Brown, je préfère funkadélique, dans lequel il y a des grosses guitares tout le temps. Quand j'écoute de l'électro, je préfère écouter Prodigy. Enfin, j'adore Prodigy, par exemple, que j'ai vu il y a 2 mois au Hellfest, qui est de l'électro hyper rock. Tu vois, je reviens toujours au rock, malgré moi.
Deuxième cadeau pour toi, Jérôme. On est en 1984 au Café du Port chez Jackie. Tu viens d'écraser ta roulée dans le cendrier du baby, tu demandes à Jackie de te resservir la même chose et tu remets 100 balles dans le jukebox pour écouter autre chose que Boney M ou Jean-Jacques Goldman, comme par exemple ce petit bijou avec à la baguette sœur Annie et frère Dave.
Always someone
Sex Crime 1984. Eurythmics, ça a 40 ans ce titre-là. Annie Lennox et Dave Stewart. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce titre, Jérôme ?
Ah oh ben incroyable.
Qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Ta petite jeunesse ?
J'étais jeune, ouais.
Ah ouais ? Tu joues au Babi ?
plus flipper, moi plus stream flipper.
Ouais.
Babi aussi un peu. Bah ça c'est vraiment, c'est l'époque des booms quoi. Donc à nouveau le 45 tours. T'allais chez un copain, une copine, ouais. Un samedi après-midi dans le garage, du papier d'aluminium, sur les petits carreaux, du coca, du banga, des chips. Et tout le monde.
C'était pas Las Vegas parano, là.
Non. Ah, des fois une petite bière qui traînait,
ouais.
quand même. C'était langueux parano, quoi.
Ouais.
Langueuse parano. Et ouais, où tu te retrouvais deux jeux de spot trois couleurs,
ouais.
Deux pick-up, et puis hop, c'était parti. Et ce qui était génial, justement, c'est que tout le monde amenait ses 45 tours.
Ah oui, ou ses cassettes.
Vinyle plus facile pour caler. Moi, je vois beaucoup de 45 tours, surtout dans les booms.
Ouais.
Et où, c'est d'ailleurs très touchant quand tu vas en brocante et que tu achètes des disques d'occasion, où souvent tu as des noms écrits dessus. Et en fait, le nom, bah, tu allais à la boom pour récupérer ton disque.
Ah ouais.
Parce qu'à l'époque, en 84, en 85, il y avait trois mecs qui l'amenaient. Hein,
et bon anniversaire dessus.
Le 1984. Et tu jouais comme ça, quoi. Ça
et alors, ceux qui avaient le luxe d'avoir une petite table de mixage, alors là. Là, on entrait dans un autre univers. Hein. C'était la boîte de nuit à la maison.
Ah ouais, mais alors, moi, tu vois, justement...
On pouvait faire des enchaînements du ouf.
Dans les booms, j'ai vraiment pas... Ce qu'il fallait avoir, c'était deux pick-up, quoi.
Ouais.
Si t'avais deux pick-up, c'était bon l'un après l'autre.
Déjà, c'était pas mal.
C'était déjà pas mal, ouais. Et,
si t'avais,
et c'est des super souvenirs. Parce
le
que...
petit curseur pour faire la transition qui tue.
Ah bah là, oui. Là, oui.
Là, normalement, t'avais des bons tickets pour faire un petit slow après.
Mais c'était formidable, parce que tu piochais dans la pile de disques avec plus ou moins de bonheur, parce que t'avais ce qu'on avait amené, quoi. Et finalement, c'était très vendange tardif déjà, c'est-à-dire qu'on joue de tout. Tu sais, moi, je dis souvent aussi, il n'y a pas de mauvais disques, il n'y a que des moments pour les passer. Tu vois, quand tu joues une soirée, si tu ne mets pas Carlos, c'est qu'il n'y avait pas de moment pour mettre Carlos.
Ouais.
Puisqu'on mais parlait de Carlos tout à l'heure.
Sa place.
Mais si à un moment tu estimes que là, on va mettre Carlos, t'as raison. Quand tu joues, tu racontes une histoire. C'est une narration, je trouve.
Seigneur météo, quand tu dis qu'il fait beau.
Voilà. Quand tu estimes que c'est le moment, que c'est le bon moment pour mettre un morceau X, c'est le bon moment. Il n'y a pas de mauvais morceaux, il n'y a que des moments pour les mettre. Et justement, tout ton art à toi, c'est de la cuisine, quoi. C'est de dire, et puis de temps en temps, tu sautes pour une connerie ou un truc complètement pété qui fait que les gens réagissent aussi.
Un peu de sel, un peu de poivre, il en faut pour tout le monde. On est entré dans la dernière partie de l'émission, donc on en est à ta carte blanche, Jérôme. C'est open bar, tu peux programmer les disques que tu veux. Voilà, si tu as quelque chose à ajouter ou un souvenir qui te vient en tête, eh ben c'est maintenant, c'est pour toi.
Et
vas-y.
On va peut-être pouvoir mettre un dernier disque, un morceau des Beastie Boys, qui est un groupe super important.
Ah, tu nous en parles un peu ?
Qui est un groupe
Qu'est-ce
important.
Qu'est-ce qui représente pour toi ?
Là, j'ai choisi ça aussi, un petit peu dans l'esprit du Helter Skelter tout à l'heure.
Ouais.
Tu vois, une façon de dire que la musique, c'est un truc super large. Tout à l'heure, c'était les Beatles qui font du punk. D'une certaine manière, c'est un peu étrange, mais tout est dans tout.
Un peu à contre-emploi.
Voilà, le contre-emploi, tout est dans tout. Il n'y a pas de chapelle. Moi, j'ai horreur de... Tu vois, quand les gens disent c'est la musique noire, ça ne veut rien dire. Tu as des mecs à Stockholm, ils font du funk vachement mieux que certains noirs ne pourront jamais faire. Parce que, pour faire du funk, il faut être funky, il ne faut pas être noir. Ça n'a rien à voir, tu vois. Et inversement, t'as des groupes de death metal, c'est des blacks qui font ça et pas des suédois tout blancs qu'on a l'impression qu'ils mangent des animaux morts tout crus, non. C'est en fait.
Ou Marilyn Manson, ils auraient pu bouffer Marilyn Manson.
Voilà, tu vois. Et donc de la même manière, les Beastie Boys sont des gens qui ont toujours produit et proposé une musique super ouverte.
Alors c'est qui ces gars-là ? D'où ils viennent ?
Alors c'est un trio new-yorkais de hip-hop qui a émergé en 86 avec leur album License to Ill. Et pour le coup, quand même, même après ce que je viens de dire à l'instant, c'est le premier groupe de hip-hop blanc.
D'accord.
Et qui propose quelque chose de vachement intéressant parce que du coup, ils vont chercher, les Américains sont des gens très très cloisonnés hein, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils écoutent et tout ça. Là, pour le coup, ce rapport de musique blanche, musique noire, c'est quelque chose de très américain quand même. Et c'est les premiers qui font du hip-hop avec du rock et avec une culture rock. Il faut savoir que les Beastie Boys, ça commence en 78-79. C'est des petits skateurs de New York qui font du punk hardcore. Donc, grosse guitare, machin, basse guitare, batterie, ça gueule dans tous les sens et tout. Et qui, jusqu'à la fin, ont toujours fait cette musique-là, qu'on fait des morceaux instrumentaux incroyables. Ouais, pour moi, c'est un des groupes de hip-hop les plus riches qu'on
ait. Mais c'est rock'n'roll, et donc, ça te plaît.
Et c'est un groupe de hip-hop très rock'n'roll, effectivement, quoi. On y revient toujours. J'y okay. reviens toujours.
Jérôme, je te remercie beaucoup d'avoir accepté d'ouvrir la nouvelle saison de Portrait Sensible. On se retrouve dans 2 semaines à 10h avec un nouvel invité. Et dimanche prochain, ne manquez pas la première de William Prigent avec Crossroad, une première émission sur les années 60 consacrée à l'album Revolver des Beatles. En attendant, portez-vous bien et soyez vous-même.